Pour le transport des marchandises ou même le transport des personnes, les drones sont-ils une solution d'avenir? Élément de réponse dans ce nouvel épisode de Détour vers le futur.
Passer par les airs pour se faire livrer une pizza ou encore une paire de chaussures. Prendre un taxi volant pour éviter les encombrements des centres-villes. Profiter d'un drone assistant pour nous apporter des outils, nous aider à bricoler ou à travailler. Est-ce que tout cela relève de la pure science-fiction? Les drones sont-ils une solution d'avenir crédible?
Alors pour discuter et répondre à toutes ces questions, nous avons deux invités parmi nous aujourd'hui. Le premier d'entre eux s'appelle Daniel Sidobre. Vous êtes maître de conférences en mécanique à l'université Paul Sabatier de Toulouse et chercheur au LAS, le laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes du CNRS. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Et notre seconde invitée est directrice de recherche à l'ONERA, l'Office national d'études et de recherche aérospatiale, et membre du comité national pilote d'éthique du numérique. Bonjour Catherine Tessier.
Bonjour.
Alors Daniel Sidobre, pour mieux comprendre de quoi les drones sont-ils capables, racontez-nous votre projet de recherche Flying Coworker, qu'on peut traduire par l'équipier volant. De quoi s'agit-il concrètement ?
On a fait une rencontre entre deux parties, une partie qui est l'interaction mon robot et une partie dans le laboratoire où on faisait de la recherche sur les drones. Et donc on a essayé de mixer les deux pour faire des drones qui interagissent avec les humains. Dans ce cadre-là, on a essayé de réaliser deux tâches. Une, d'échanger des objets, qui est une des tâches essentielles, qui implique une interaction physique entre l'homme et la machine.
Donc l'homme donne un objet au drone et réciproquement.
Et réciproquement, oui.
D'accord.
Et la deuxième, c'est le transport d'un objet en commun, où là, on a un problème de contrôle assez important, où on va transporter, alors avec un drone, essentiellement l'objet long assez léger, pour en faire quelque chose, par exemple une pièce à installer quelque part.
Par exemple, pour monter un échafaudage, on peut imaginer qu'on a un humain qui tient une planche et puis de l'autre côté, c'est le drone qui l'aide à monter.
Voilà, ça pourrait être un exemple, le drone qui aide l'humain, enfin, le travailleur humain, à installer une pièce d'un échafaudage, d'un élément aérien quelconque.
Et là, du coup, c'est dans un endroit, enfin là où est le drone, c'est là où un humain ne peut pas aller. C'est un peu ça aussi le côté particulier de ce projet-là.
Vu qu'on a une interaction, on a déjà un humain qui est là, mais par contre, l'idée, enfin, plus pour développer un projet, pour se poser des questions de recherche, c'est d'être dans un endroit où l'humain est un peu isolé. Mmh. Et plutôt que d'y envoyer un deuxième humain, c'est d'y envoyer un drone qui n'a pas besoin de se poser sur un échafaudage, par exemple, qui peut être en l'air à côté et donc interagir dans l'idée facilement.
C'est ça. Donc du coup, aller peut-être dans des endroits plus compliqués à atteindre, peut-être plus haut, plus...
Oui, on peut imaginer des tâches de cordistes qui sont sur une corde pendue quelque part et où un drone vient le rejoindre pour faire quelque chose.
Le projet de recherche, tout est inventé, mais ce n'est pas le projet de recherche de base.
Non, le projet de recherche de base, ça c'est des idées d'application, des idées pour se poser des questions. Le projet de recherche, c'est vraiment d'étudier l'interaction entre l'homme et le robot dans un contexte qui est plus difficile que habituellement lorsqu'on a un robot qui interagit avec un humain, parce que là, le robot n'est plus posé par terre, il est en l'air, donc on a une troisième dimension où le robot va pouvoir se positionner entièrement autour de l'humain, donc derrière, devant, enfin, il y a des problèmes d'approche, etc. Et le deuxième partie, c'est au niveau de l'interaction, où on va avoir les échanges de l'objet, des choses comme ça, avec des efforts, des transmissions d'efforts, avec des mesures d'efforts qui sont difficiles, parce qu'on est sur un drone qui vole, donc on n'est plus posé. On ne sait pas quelle est la partie de l'effort qui fait partie de l'interaction avec l'air, disons, ou d'un autre obstacle, et avec l'humain, par des capteurs qui sont toujours bruités, donc on travaille sur des efforts. Et l'autre partie, c'est on a un drone qui vole, donc qui est extrêmement limité en charge transportable. Et donc, d'avoir mettre des capteurs comme des caméras 3D, des choses comme ça sur le drone, on va être très limité. Donc, on va avoir des difficultés à analyser le mouvement de l'humain, à savoir où il est, etc. Mm-hmm. Et donc, on a un projet au niveau recherche, on se pose des problèmes qui sont plus compliqués, un peu différents. Et donc, il y a un intérêt sur ce projet-là particulier pour aller plus loin dans ces domaines-là.
Oui, il y a un nombre de complexités qui est sacrément augmenté, parce qu'il y a effectivement la troisième dimension, puisqu'on est dans l'espace aérien, même si ce n'est pas forcément très haut dans le ciel, mais il y a en plus de tous les contraintes qu'on connaît déjà sur le côté interaction, le poids, etc. Vous parliez de charge utile réduite. C'est quoi à peu près une charge réduite utile?
Disons qu'on a un drone là qui fait la taille de 1 mètre de diamètre à peu près, avec 6 rotors, de manière à avoir le mouvement dans les 6 directions. Mm-hmm. Et on se retrouve avec une charge utile de l'ordre maximum 500 grammes, disons, une fois qu'on a mis un bras sur le robot. Mm-hmm. Et avec une batterie qui va tenir de l'ordre de la minute, quoi.
Alors,
on peut imaginer de faire mieux, mais bon, dans le contexte
de
recherche,
moment,
on en est là.
Donc là, ça veut dire que le drone dont on parle, il pourrait transporter quelque chose qui pèse 500 grammes. C'est ça que ça veut
oui,
dire.
Oui, c'est ça que ça veut dire.
Mais quand on imagine la scène, on se dit que c'est sacrément risqué aussi pour l'humain, parce qu'un drone, il y a des hélices, ça tourne. J'imagine que la question du risque et la question de la sécurité fait partie aussi de cette recherche.
Oui, alors là, évidemment, la sécurité, c'est un des points fondamentaux. Et il y a une deuxième qui est l'aspect ergonomie, c'est-à-dire de savoir pour fatiguer. Mais bon, là, on n'est pas trop... Enfin, il y a des aspects qui sont importants parce que le drone va générer un flux d'air qui va perturber énormément l'humain. Oui. Sur le plan de sécurité, oui, on a de gros problèmes. Alors, le premier, vous l'avez évoqué, c'est les pales. Donc, on va caréner les pales et mettre un filet de manière à ce qu'on ne puisse pas passer les doigts à travers les pales. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait. Mais bon, ça rajoute des contraintes.
Du
poids aussi. Mais en théorie, le fait de rajouter un carénage aux hélices améliore un peu le rendement des hélices. Ah. Donc, on peut espérer de ne pas trop perdre. Mais en fait, on ne perd pas trop, mais bon, c'est compliqué quand même. Le filet, par contre, il fait une perte dans les hélices.
Ouais. Et l'autre difficulté, vous disiez par rapport à la sécurité ? Donc il y a les hélices.
Oui,
la
deuxième difficulté, bien sûr, c'est le drone qui peut tomber sur le. Oui. Enfin, de tomber ou partir dans une mauvaise trajectoire et venir heurter l'humain. Donc là, il faut en permanence avoir des modèles de contrôle qui garantissent que le robot, s'il tombe, il ne tombera pas sur l'humain.
Et ce robot-là, il est autonome et reprenable par un humain ou il est juste guidé par un humain ou c'est quoi le curseur là-dedans ?
Dans les travaux qu'on fait, il est entièrement autonome.
Entièrement autonome, oui.
Entièrement autonome. Mais bon, on peut reprendre la main éventuellement si.
C'est le filet de sécurité numéro 2.
Alors, en général, quand on fait des manips, il y a toujours quelqu'un à côté. Enfin, c'est pas, il y a beaucoup de monde autour, quoi, qui surveille ce qui se passe, qui peut intervenir sur un point. On n'est pas dans un contexte encore industriel ou d'application.
Oui, on parle d'une expérimentation, on parle d'un travail de recherche. Catherine Tessier, pour parler un peu éthique par rapport à cette question, on peut se dire, bon, on parle des risques, on parle de la sécurité. Est-ce que ça, ce sont des questions éthiques pour essayer de comprendre un peu ce qu'on appelle l'éthique du numérique? Est-ce qu'il se pose d'autres questions aussi par rapport à ce type d'expérience en particulier ?
Oui, d'abord le vocabulaire. Qu'est-ce que ça veut dire l'éthique ? L'éthique, c'est une réflexion. Donc il s'agit de réfléchir sur quelque chose, donc sur un sujet. Donc ici, par exemple, réfléchir sur l'usage ou la conception d'engins dits autonomes. Alors je vais revenir sur le autonome. La première question éthique, justement, donc cette réflexion au sujet donc des valeurs, etc., qui vont fonder les comportements humains. La première question éthique, c'est de parler avec des mots justes des objets que l'on imagine. Quand on parle de drones ou de véhicules, de manière plus générale, autonomes, on utilise ici un adjectif qui caractérise en premier lieu un être vivant et plus spécifiquement un être humain.
Oui, en autonome, on a l'impression qu'il peut décider par lui-même de ce qu'il va faire.
Donc un objet, comme cette table par exemple, mais un robot, c'est pareil, ne décide absolument rien. Donc un robot est programmé. Donc il ne décide pas, il fait des calculs. Donc le mot autonome est utilisé par abus de langage pour, en fait, un objet dans lequel il y a un certain nombre de fonctions qui sont automatisées, oui. C'est-à-dire programmées sur un ordinateur. Et le fait d'utiliser le mot autonome va créer des fantasmes, en fait. Et c'est là que, du point de vue éthique, ça pose des problèmes, parce que certaines personnes peuvent, et en particulier le grand public, peut imaginer que effectivement cet objet est doté d'un esprit, de la capacité à faire ce qu'il veut,
une conscience,
enfin bon, voilà. N'importe quoi, alors qu'il s'agit d'un objet, encore une fois, qui est programmé par des humains. Donc la première chose, c'est d'être juste sur le vocabulaire. Il serait souhaitable, judicieux, d'utiliser non pas le mot autonome pour caractériser ces véhicules, mais dire par exemple qu'il s'agit d'un véhicule à conduite automatisée ou d'un drone dans lesquels les fonctions, alors je sais bien que c'est plus long, mais dans lesquels les fonctions de reconnaissance de situation, de calcul des décisions sont automatisées. Voilà, on serait beaucoup plus juste. Voilà.
Donc ça veut dire que si on reprend cet exemple du flying coworker, ça veut dire que le drone doit aussi comprendre. Si l'humain lui dit « apporte-moi une clé à molette », je dis n'importe quoi, il faut que le drone comprenne ça pour aller chercher l'outil. Et alors, c'est pas lui-même qui va décider d'aller chercher la clé à molette.
Alors attention, oui. Un drone, de la même façon qu'il n'est pas autonome, au sens philosophique du terme, ne comprend rien. Oui. Voilà.
Oui. Ah, ne comprend rien. Deuxième piège.
Voilà. Dans le piège, en fait, et c'est ce qu'on fait tous, hein, de toute façon, voilà, c'est de personnifier l'objet. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait quand on dit que le drone est un équipier volant. Un équipier, c'est un humain, usuellement. Voilà. Donc on a tendance, mais ça c'est humain pour le coup, à personnifier les objets, et en particulier les objets qui sont largement automatisés. Le problème, c'est que on a tendance à projeter des traits du vivant sur ces objets, et là ça crée tout un tas de fantasmes qui sont très très loin de la réalité.
Daniel, comment vous réagissez par rapport à cela? C'est-à-dire que le projet que vous avez baptisé Équipier Volant, il faut aussi bien se dire que dans l'interaction entre l'homme et la machine, on a besoin quand même de cette relation pour ne pas lui parler en langage codé, par exemple, pour ne pas taper des lignes de code. On a besoin du langage naturel aussi, hein, de plus en plus, dans l'interaction avec les robots.
Oui, on utilise de plus en plus le langage naturel, mais c'est pas, enfin, là, on n'est pas à ce niveau-là. On est dans un environnement dit industriel où on a un certain nombre d'objets qui sont connus et limités, donc on peut assez facilement les nommer, des choses comme ça. Mais je reviendrai sur le nom du projet. On est dans un contexte où on est piégé en tant que scientifique, parce qu'on est obligé de proposer des projets qui vont loin, d'où l'idée de proposer l'équipier volant, parce que ça va être attractif, et donc on va réussir à avoir les sous pour le projet, quoi. Et même dans ce qu'on met à l'intérieur du projet, il y a tout un tas de choses, enfin, on propose des applications, des choses comme ça, alors qu'on sait fort bien que notre objectif à nous, il est purement scientifique de progresser sur quelques points qu'on a identifiés. Éventuellement, on peut en trouver d'autres en cours de route, mais c'est assez limité sur des points scientifiques. Et effectivement, comme le disait Catherine Tessier, dans ce genre de choses, quand ça vient au grand public, c'est incompréhensible. On peut reprendre la même chose sur le mot autonome. Nous, on fait la différence entre un système, en gros, téléopéré, où c'est l'humain qui commande la machine, et un système autonome. Et on ne se pose pas la question de l'autonomie en ces termes. Mais de fait, pour quelqu'un qui n'est pas un spécialiste...
Oui. C'est des abus de vocabulaire, effectivement, pour simplifier les communications. Alors, les communications vers le grand public, vers l'obtention de financement aussi, parce que ça aussi, c'est un sujet récurrent. Et puis, c'est vrai que du coup, ça irradie, puisque c'est dans notre bain quotidien de la SF, des séries de télé et autres. Du coup, on est baigné dedans, donc c'est facile d'utiliser ces termes qui vont plus vite.
C'est ça, exactement. C'est comme intelligence artificielle. Hein. C'est en aucun cas une intelligence qui serait artificielle. Bon, voilà. C'est une discipline scientifique, mais voilà, donc ça crée beaucoup. Alors, c'est le cas vraiment actuellement. Ça crée beaucoup, beaucoup de fantasmes.
Alors, si on est dans le domaine des fantasmes, on va rester avec avec les drones au quotidien. Un autre projet d'utilisation de ces drones, c'est la livraison par drone. Hein, c'est une idée déjà ancienne qui fait parler d'elle régulièrement, comme dans ce reportage diffusé sur France 2, c'était le 2 décembre 2013.
Vous venez de commander un article sur Internet. Moins d'une demi-heure plus tard, le voici descendant du ciel, livré dans votre jardin par un drone. Voici le projet fou de Jeff Bezos, le PDG d'Amazon.
C'est un octocoptère.
Son but, livrer par les airs tous les clients qui habitent dans un rayon de 16 km autour de ses entrepôts. Poids maximum du colis, 2,3
kg. Ça peut marcher d'ici 4 ou 5 ans. Ça va fonctionner et ça va être très drôle.
Coup de pub ou projet sérieux, sans doute un peu des deux. Mais avant de recevoir sa pizza toute chaude par drone, comme une chaîne célèbre l'imaginait récemment, il y a encore de nombreux défis.
Alors, il semble qu'il y ait donc encore de nombreux défis qui n'aient pas encore été relevés. Pourtant, on est 10 ans plus tard. Il parlait de 5 ans plus tard dans le reportage, donc il y a 5 ans. Donc, pourquoi est-ce que ça ne marche toujours pas, Daniel Sidob? Qu'est-ce qui bloque?
Le premier point, si on regarde ce qui existe un peu à l'extérieur, on est sur des voilures tournantes, donc des systèmes qui n'ont pas un rendement exceptionnel. Mmh. Et donc, si on regarde les transports qu'on utilise, hein, l'aérien par rapport au transport en moyenne, ça représente 3 fois rien. Et quand on regarde dans l'aérien, les hélicoptères, ça représente à peu près rien non plus. Quoi. Par contre, c'est indispensable. Quand il y a un vrai problème, un accident, une chose comme ça, on aime bien avoir un hélicoptère qui va bien. Je crois qu'au niveau des drones, on est à peu près dans le même schéma par rapport aux autres machines. Quoi. Et donc, imaginer des livraisons par drone comme ça, on va avoir déjà ce premier problème, qui est un problème général de rendement de ces véhicules. Le deuxième problème qui se pose... c'est le problème du survol. C'est-à-dire qu'on va survoler des zones qui ne sont pas faites pour. C'est-à-dire, quand je vois mes voisins qui ont une piscine, comment ils se barricadent à l'intérieur de leur jardin, j'ai du mal à imaginer des gens qui vont accepter qu'un drone passe au-dessus. Ou la même chose, si on imagine passer au-dessus des routes existantes, quand vous êtes en voiture, vous voyez un drone passer au-dessus. Quoi. Moi, j'y crois pas. Donc, il va falloir trouver des moyens.
Oui, ça fait peur, en fait. Ça gêne, ça dérange.
Donc, on a ce problème-là. Et ensuite, il y a le problème de savoir comment on va déposer le paquet.
Colis.
Alors là, éventuellement, on peut dire, on est dans le projet Flying Coworker, on essaie d'apporter une réponse, mais on en est loin quoi, de quelque chose de réaliste.
Oui, parce que la pizza, si on la lâche même à 1 mètre du sol...
C'est pas une bonne idée.
C'est pas vraiment une bonne idée.
Bon, et encore, ça reste qu'une pizza, c'est pas de la porcelaine. Pour autant, il y a déjà des choses qui existent. Il y a déjà des expérimentations en cours. Alors, en faisant quelques petites recherches, on a trouvé notamment le projet AirShab de la société Deliveroon qui transporte des échantillons biologiques pour les hôpitaux. Alors, en gros, ils transportent des échantillons de sang, des échantillons d'urine entre 2 hôpitaux, celui de Maubeuge et celui de Valenciennes. Alors, mine de rien, c'est quand même intéressant, parce que quand on regarde, après, il faudrait voir effectivement le périmètre, qui a fait l'étude, etc. Mais néanmoins, ce qu'ils annoncent, c'est quand même un trajet de 41 km pour ces échantillons. Donc c'est quand même bien pratique, puisque c'est un peu comme les hélicos dont vous parliez il y a un instant. Et puis ils annoncent aussi quand même un gain de temps de 20 minutes pour livrer les échantillons. Et puis aussi un gain de 95% d'impact carbone en moins par ce transport-là. Donc est-ce que ça pourrait être une solution, au moins pour ces petits trajets exceptionnels dont on parle là, un peu comme les hélicoptères?
C'est comme je le disais pour les hélicoptères. Il peut y avoir des applications qui sont un peu particulières et eux un intérêt. Donc là, on a un cas particulier d'éléments assez légers qui doivent être transportés assez vite entre deux lieux dans des conditions un peu particulières. Après, dans le projet, il y a des choses qu'on ne sait pas. Est-ce que ça marche en hiver quand il neige? Est-ce que ça marche pendant les tempêtes de vent?
Entre Maubeuge et Valenciennes, effectivement, il y a ça à prendre en compte.
Donc il y a des aspects. Enfin, on ne sait pas si c'est un projet juste pour faire une validation de démonstration ou si c'est une vraie application. Par contre, il existe quelque chose qui marche, je pense, en Afrique, pareil, pour livrer des médicaments ou des choses comme ça, qui a l'air de fonctionner depuis un certain temps. On est confronté à ce problème-là de niches, mais de systèmes qui ne peuvent pas, je pense, généraliser à grande échelle, à court terme. À long terme, on ne sait pas ce qui se passera. Mais
oui, très certainement qui circulent sur quelque chose d'extrêmement borné en termes de survol, comme vous le disiez. Ils ne passent pas au-dessus de n'importe quoi.
Il y a l'autre aspect, c'est l'aspect énergétique. C'est-à-dire, est-ce que ça consomme beaucoup ou pas beaucoup? Là, il faut regarder. Tant qu'on est sur des petits éléments, les rapports poids-puissance n'ont rien à voir avec les gros équipements. Donc, c'est difficile de faire des calculs, de savoir exactement ce que ça donne. Quoi. Je serais assez prudent sur ces chiffres. Mais...
Et qu'est-ce qu'on peut dire des règles aujourd'hui de vol des drones? Parce que vous avez cité les jardins, les routes, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui n'est pas permis?
Alors déjà, il y a tout ce qui est autour de terrain militaire, tout ce qui est autour d'aéroports civils. C'est-à-dire qu'en gros, à Toulouse, vous ne pouvez pas faire voler un drone sauf dans votre salle à manger. Enfin, j'exagère, mais en gros, c'est ça. Donc il reste quelques endroits où on peut faire voler des drones. Et ensuite, effectivement, on n'a pas le droit non plus de survoler les propriétés privées, etc. Donc en gros, c'est très limité dans l'usage. Alors il y a des applications qu'on voit au niveau sportif ou des choses comme ça, où ils restent autour des routes, de stades ou des choses comme ça.
Là aussi, il y a quand même tout un tas de permis. Enfin, quand on regarde la réglementation, il y a une qualification de chaque drone en fonction de son poids, le nombre de rotors. Enfin, c'est extrêmement précis.
Oui.
Rassurant quelque part.
Oui, c'est rassurant. Il y a d'autres domaines au niveau agricole ou au niveau des inspections de bâtiments publics, enfin d'infrastructures comme des ponts ou des avions, des choses comme ça. Mais là, c'est pareil, on est dans une zone très réglementée.
Oui, on est encore dans le domaine de l'expérimentation. Allez, je vous ramène du côté des drones autonomes avant de terminer cette émission pour continuer à rêver avec un écrivain de science-fiction, l'ICAM notamment, qui nous écrit dans chaque épisode une chronique du futur. Et cette fois-ci, sa chronique s'intitule « Mon drone et moi ».
La barque à moteur glisse lentement sur l'eau boueuse. Les intempéries de ces derniers jours ont fait déborder le fleuve sur des kilomètres. Je ne reconnais plus rien. Au-dessus de moi, mon drone libellule vole en silence, ses pattes en acier recroquevillées sous son abdomen. Je scrute le toit des maisons et les étages des immeubles. L'alerte a été donnée voilà des semaines. L'évacuation s'est bien passée, mais il reste toujours des irréductibles.
Soudain, ma libellule bifurque et s'éloigne de la barque. Elle a dû voir ou entendre quelque chose. Elle file dans le ciel à une vitesse impressionnante. Je ralentis le moteur et j'active mes lentilles de contact. Je vois désormais ce que me transmettent les caméras du drone. L'eau obscure, emplie de débris, des branches arrachées, des objets du quotidien flottant sans but, les parois d'un immeuble, la rambarde d'un balcon. Un vieil homme est assis à même le carrelage. Il s'affole à la vue de ma libellule. J'active le micro placé devant ma bouche et j'essaye de le rassurer. L'apparence du drone effraie souvent ceux qui ne connaissent pas ce type d'appareil.
Je fais partie de l'équipe de secours. L'engin qui vous fait face est une libellule de reconnaissance.
Le vieil homme se calme.
Si vous parlez fort, je pourrai vous entendre.
J'ai été pris de court.
Le ventre de la libellule va s'ouvrir. Veuillez récupérer la balise.
L'homme attrape l'objet de la taille d'un œuf.
Je n'ai plus d'eau potable.
Je vous en apporte. Les pompiers seront là dans 2 ou 3 heures.
Assis dans la barque, je patiente. Puis, j'entends un léger bruit d'hélice. Ma libellule se tient au-dessus de moi. Ses pattes, munies de mains, s'ouvrent. J'y place une brique d'eau, une couverture de survie et des barres protéinées. Elle repart immédiatement, son vol ralenti par sa charge.
En attendant qu'elle revienne, Je signale la présence de cette personne aux pompiers qui se trouve à plusieurs kilomètres en amont. Il reste sans doute des gens à secourir.
Texte Licam, voix Corinne Mariotto, sound design et réalisation François Donato.
Alors voilà un exemple plutôt utile d'utilisation d'un drone futuriste. Daniel, est-ce que ça vous évoque, on évoquait tout à l'heure la possibilité justement d'utiliser des drones pour des catastrophes naturelles. Voilà, on peut imaginer que ça puisse aider à la fois repérer et sauver des gens.
Oui, donc ça, c'est un peu ce qu'on fait dans notre projet, c'est-à-dire d'imaginer qu'on pourrait faire des choses comme ça, délivrer des objets à des gens, aller inspecter. Alors, sur le plan de l'inspection, on en a parlé tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on peut imaginer. Par contre, sur le plan, à l'heure actuelle, d'aller livrer des objets, on est limité par les drones actuels.
Et sur le plan de discuter, communiquer, reconnaître une personne, Catherine Tessier, ça pose des questions éthiques aussi, ça, quelque part?
Oui, alors la question c'est qu'est-ce qu'on embarque sur le drone et pourquoi faire ? Si on conçoit des drones pour aller reconnaître des personnes, qu'est-ce qu'on envisage de faire exactement après la reconnaissance de la personne ? Donc quelle est l'action qui va suivre ? Est-ce qu'on utilise des logiciels qui vont reconnaître des comportements, des postures, voire le visage des personnes, et à quelle fin ? Donc il faut se poser la question de la finalité. Certains gouvernements très sécuritaires auraient bien envie d'avoir des flottes de drones pour reconnaître par exemple des personnes dans les manifestations, des choses de ce genre-là, bon, qui seraient évidemment dans nos démocraties une infraction grave aux libertés fondamentales, hein, liberté d'aller et venir, liberté de manifester en particulier. Donc il faut se poser la question de à quoi ça sert, enfin quelle est la finalité de la mission du drone, qu'est-ce qu'on embarque à bord, pourquoi faire, et est-ce qu'il y a des intentions cachées, non dévoilées, donc, ce sont des questions qu'il faut se poser, et plus généralement lorsqu'on conçoit un objet nouveau. Donc là, je parle moins au niveau de la recherche qu'au niveau des usages. C'est au nom de quoi, de quelle valeur, hein, on va mettre cet objet en usage. Pourquoi faire? Quels sont les besoins? Quel est le problème à résoudre? Est-ce qu'il existe un problème à résoudre ou est-ce qu'il est complètement inventé? Est-ce qu'on répond à des besoins? Est-ce qu'ils sont réels, ces besoins? Les besoins de qui, etc., etc. Donc ça, ce sont des questions éthiques qu'il faut absolument se poser avant de déployer éventuellement des objets de ce type.
C'est là où c'est très délicat, parce qu'effectivement, sur un problème d'inondation, de gens isolés, etc., on aurait envie de dire, c'est génial, on peut aller aider des gens, etc. Mais c'est vraiment, comment est-ce qu'on fait pour mettre en place, en parallèle de ces dispositifs innovants, des garde-fous pour qu'effectivement, ce ne soit pas tout et n'importe quoi qui soit fait, et puis avec les images par la suite.
Bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'il conviendrait de bien identifier les finalités et de s'en tenir strictement à ces finalités. C'est-à-dire, si on conçoit des drones pour aller reconnaître des victimes d'une catastrophe naturelle, par exemple, eh bien, il s'agit de drones pour reconnaître des victimes dans une catastrophe naturelle et aider au secours. Mais il ne s'agit pas d'utiliser la même chose pour aller survoler des manifestants, par exemple.
Et est-ce qu'on pourrait en décider collectivement, par exemple? Est-ce qu'on pourrait imaginer, comme vous l'avez préconisé dans un des derniers avis justement du Comité national pilote d'éthique du numérique, d'organiser des concertations citoyennes, des consultations citoyennes pour décider si, pour tel usage, à tel endroit, sur tel territoire, on autorise ou pas des drones ou des véhicules autonomes?
Oui, il faut absolument qu'il y ait un contrôle démocratique, donc soit via nos représentants élus, les assemblées, soit effectivement par ce qu'on appelle les consultations citoyennes, mais les consultations citoyennes posent elles-mêmes des questions éthiques, puisqu'il s'agit de savoir quels citoyens sont interrogés, comment on rassemble donc ces citoyens, qui sont-ils, comment on les éduque, c'est-à-dire comment on leur fait comprendre quel est l'objet d'étude, quels sont les enjeux. Qui fait cette formation, est-ce qu'elle est orientée, pas orientée, parce que c'est très facile évidemment d'orienter un discours. C'est quelque chose qui est difficile à organiser et qui pose beaucoup de questions. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ça pose plein de questions. Et puis après, dans ce qui va être produit par ces citoyens, il va falloir trier ce qui relève du raisonnement, dirigé par des émotions, du raisonnement beaucoup plus, qui se rapprocherait du raisonnement scientifique, plus rationnel.
Voilà. Mais est-ce que, intellectuellement, la société française, au moins, serait prête à aller vers des choses comme ça ou pas ? Est-ce que c'est des choses... Parce qu'il y a la question alors, de l'acceptabilité, même si le mot n'est pas forcément le bon.
Je ne vais pas répondre pour la société, je ne sais pas qui est la société, mais il y a des choses qui, peu à peu, rentrent dans les usages de manière... on s'en aperçoit presque pas.
C'est ça.
D'accord. C'est le cas des caméras dans l'espace public, par exemple. Hein, voilà, elles passent quasiment inaperçues. Elles sont là, elles font partie du paysage. Et si demain, on a des caméras un peu plus mobiles... Voilà, qui bouge, voir des caméras peut-être ensuite qui nous survoleront via des drones. Peut-être que c'est petit à petit, comme ça, par accoutumance, disons, que la société va accepter ce genre de choses. Et il n'y aura pas eu forcément de réflexion bien poussée avant. Il y a ce problème de l'air de rien, quoi.
D'où l'intérêt, effectivement, de poser les choses.
Et d'avoir une réflexion éthique avant. Voilà,
avant de le généraliser.
Daniel, vous vouliez... Oui, moi, je pense quand même que là, on atteint une limite. C'est-à-dire que quand on fait de l'éthique ou qu'on fait des discussions au niveau de l'éthique, on se pose un peu en marge du système. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a un système de recherche qui propose des choses, qui fait... Et c'est très bien, on acquiert des connaissances. Là, je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes. De temps en temps, il peut y en avoir, mais globalement, il n'y en a pas trop. Et ensuite, on a une phase d'industrialisation, c'est-à-dire où on a des industriels qui vont proposer des nouveaux produits, investir énormément.
Des usages
nouveaux. Ils vont proposer des choses. Et au moment où on va se poser la question d'éthique, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut déployer une caméra dont on parlait dans l'espace public? Ces industriels-là, ils ont déjà investi, ils ont déjà des moyens, ils ne veulent pas perdre des sous sur des choses qu'ils ont déjà investies. Et donc, on est à moitié piégé. Je pense qu'il faudrait, en amont, pouvoir avoir un contrôle sur les choses qu'on est en train d'essayer de développer, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il faudrait se passer un petit peu en amont au niveau des industriels et les contrôler beaucoup plus que ce qu'ils sont actuellement sur ces nouveaux systèmes. C'est-à-dire, pas attendre qu'il y ait une entreprise qui déploie des véhicules dans une ville pour qu'il y ait des problèmes et se dire ça pose problème, mais pour faire ces choses-là en amont avec les citoyens. Et là, je n'ai pas la solution de comment il faut faire, mais je pense qu'il y a un vrai problème.
Et ce n'est pas ce qu'on appelle l'éthique embarquée, par
exemple ? Oui, enfin, pas tout à fait, mais ce que je voudrais dire pour aller dans le prolongement de ce que vient de dire Daniel Sildob, c'est qu'en fait, là, il y a un dilemme fondamental, alors qui, pour le coup, est un dilemme éthique. C'est d'une part le fait de réfléchir aux valeurs mises en cause ou aux conséquences de ce qu'on est en train de mettre en œuvre. Et puis, de l'autre côté, un droit fondamental des entreprises qui est la liberté d'entreprendre et la liberté de mettre sur le marché un certain nombre de choses. Donc là, il y a un dilemme, effectivement, qui n'est pas facile. C'est une situation de dilemme et que, par définition, un dilemme n'a pas de bonne solution.
Bien, encore pas mal de verrous techniques, des dilemmes, des verrous réglementaires, mais aussi sociaux à faire sauter. Et peut-être que c'est pas si mal qu'il n'y ait pas trop de drones pour l'instant dans le ciel au-dessus de nos têtes.
Détour vers le futur, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à nos deux invités, Catherine Tessier et Daniel Sidobre.
Merci à nos partenaires de l'INA pour la recherche documentaire. Cet épisode a été réalisé en coproduction par le Quai des Savoirs et le CNRS avec le soutien de l'Agence Nationale de la Recherche.
Détour vers le futur, un podcast préparé par Laurent Chicoineau et Marina Léonard avec l'aide de Françoise Vissac.
Réalisation Arnaud Maisonneuve, à la prise de son Névic Martorel. Abonnez-vous à Détour vers le futur sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme préférée pour écouter nos prochains épisodes. Et d'ici là, restez curieux. Ciao !